VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 18 mai 2016. Au sommaire ce soir...
République démocratique du Congo, appel à 3 journées villes mortes dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero, Nord Kivu. La société civile veut honorer la mémoire de plusieurs centaines de civils tués dans la région ces 2 dernières années.
Beaucoup de bureaux sont fermés. Les banques, les marchés, il n'y a personne. Et on ne paye pas de taxes parce qu'on a trop souffert. Et après cela, s'il n'y a pas de solution, nous allons entreprendre d'autres actions.
Au Nigeria, une grève illimitée était prévue aujourd'hui contre la hausse du prix de l'essence. Le mouvement avait pourtant été interdit par la justice.
Attaque au Burkina Faso contre un commissariat de Koutougou, près de la frontière malienne.
En reportage, nous parlerons des récompenses pour les applications pour smartphones développées au Togo.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, le gouvernement a mis en garde les syndicats concernant leur mot d'ordre de grève générale contre la hausse du prix du carburant. Pour Abuja, ce débrayage est illégal, vu son interdiction par la justice. Les négociations avec les 2 principaux syndicats se sont achevées sans accord et une faction syndicale avait maintenu son appel à la grève. Est-ce que le mouvement a été suivi? Idriss Fall a joint le professeur Amoussou Tundonou de l'Université de Lagos.
Franchement, à Lagos, j'ai l'impression que la grève n'est pas vraiment suivie. Tout simplement parce qu'au début, les gens avaient peur de sortir le matin. Mais à partir de 10 heures, les rues se sont remplies. Les activités ont plus ou moins repris. Dans une très large mesure, la fin n'a pas été très suivie par une grande partie de la population. La raison est toute simple. Les gens ont déjà du mal à vraiment vivre au jour le jour. Si les choses doivent se compliquer davantage, évidemment, ça ne va pas du tout.
La revendication de l'essence en accommode l'augmentation du prix de l'essence?
On s'en accommode d'autant plus facilement que vous savez, depuis un certain temps, il y a beaucoup de gens qui achètent leur carburant à 150, à 200 naira le litre. Et cela encore après avoir passé beaucoup de temps à aller en pot partout. Si vous voulez faire la queue pour obtenir le carburant au prix dit normal à l'époque de 86 naira, il fallait faire la queue pendant 5 ou 6 heures de suite, sous un soleil terrible. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que finalement, c'est le moins de mal.
Professeur Amoussou Tundounou de l'Université de Lagos.
Dans le nord-est du Nigeria, une des 219 lycéennes enlevées à Chibok en 2014 par Boko Haram a été retrouvée. Amina Ali a été découverte par des vigiles dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno, un des derniers bastions des djihadistes. Elle a été ramenée à ses parents.
Attaque contre un commissariat dans le nord du Burkina Faso. Des assaillants non identifiés ont blessé 2 policiers et 2 gardes hier soir à Koutoukou, près de la frontière avec le Mali. Ils ont saccagé le commissariat avant de s'enfuir. Les forces de défense et de sécurité burkinabées sont mobilisées pour les retrouver. La piste terroriste est privilégiée. Zoumana Wonogo de Ouagadougou.
Les forces de défense et de sécurité burkinabé ont commencé le ratissage de la zone. Une zone qui est réputée être la partie la plus à risque du Burkina, selon les chancelleries. C'est dans cette zone que le couple Elliott a été enlevé en janvier dernier, le même jour que se perpétrait l'attaque contre le Cappuccino et le splendide hôtel à Ouagadougou. La piste terroriste est privilégiée selon nos informations. Toute chose qui apporte de l'eau au moulin du général Pengrenoma Zagré, le chef d'état-major général des armées, quand il dit vouloir réduire les bataillons burkinabés dans les missions de maintien de la paix pour mieux sécuriser le Burkina qui serait dans l'œil du cyclone. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans l'est de la RDC, la société civile du Nord Kivu a lancé à partir de ce mercredi 18 mai 3 journées villes mortes dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero. Elle a appelé la population à la désobéissance civile. Il s'agit, disent les responsables, d'honorer la mémoire de plus de 1000 civils massacrés depuis 2 ans dans la région. Nous retrouvons à Goma Charlie Kasereka.
Toutes les activités commerciales fermées et aucun moyen de transport à commerce sur la route. Gilbert Kambale coordonne les associations de la société civile à Beni.
Beaucoup
beaucoup de bureaux sont fermés. Les banques, les marchés, il n'y a personne. Et on ne paye pas de taxes parce qu'on a trop souffert. Le président de la République est passé ici à des reprises pour dire qu'il va mettre fin au massacre. Mais le massacre continue.
La MONUSCO, conjointement avec la force congolaise, ont lancé des opérations de grande envergure sur différentes positions de cette rébellion dans les forêts de Beni. Charles Bambara, porte-parole de cette mission onisienne en RDC, précise ceci.
On n'a pas dit dans 2-3 mois, l'opération sera complètement finie. Mais nous n'arrêterons pas.
Plusieurs actions de la société civile et des campagnes sur des réseaux sociaux en RDC sont en cours pour inciter les autorités de la RDC et celles de la mission onisienne à déployer des moyens pour éradiquer cette rébellion d'islamistes et des ADF, Alliance Démocratique Force, qui a déjà massacré plus de 1000 civils. Charles Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. La procureure a requis au minimum 25 ans de prison contre l'ancien vice-président congolais pour les meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique en 2002 et 2003. Il s'agira de la peine la plus importante jamais décidée par la CPI. La défense, elle, demande entre 12 et 14 ans de détention.
Burundi, le gouvernement indique qu'il va se rendre aux négociations d'Arusha, comme le demande la communauté internationale, et la médiation conduite par l'ancien président tanzanien William Benjamin Mkapa. Le porte-parole du président burundais, Willy Nyamitwe, a affirmé que les questions de sécurité et de développement qui préoccupent particulièrement les autorités burundaises seront à l'ordre du jour. Le point avec Christophe Nkurunziza.
Willy Nyamitwe, porte-parole du président burundais, après analyse de l'invitation du médiateur et ancien président tanzanien William Benjamin Mkapa, il a confirmé que les futures échéances du dialogue inter-burundais programmé à Arusha le 21 mai prochain verront la participation des autorités burundaises car le gouvernement prenant le dialogue ne veut pas s'absenter quand les Burundais se réunissent. Pour le porte-parole de Pierre Nkurunziza, la session prochaine est une suite logique de ce qui se passe dans le dialogue inter-burundais à l'intérieur du pays. Et comme le gouvernement a toujours promis que les Burundais de l'intérieur et de l'extérieur, ceux de la diaspora, devront être consultés afin qu'ils apportent une pierre à l'édifice qu'est la paix et la sécurité au Burundi. Willy Nyamitwe a affirmé que le gouvernement burundais ne jouera pas les absents. Le gouvernement burundais fera tout pour que la population participe activement au maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays, a précisé le porte-parole du président burundais. Il est à noter que l'opposition à l'intérieur du Burundi a déclaré qu'elle se réjouit de la reprise de ces négociations qui avaient débuté l'année dernière à Kampala en Ouganda sous la médiation de Yoweri Museveni. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Répression au Soudan. Des organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent du sort de 12 étudiants détenus sans inculpation après des manifestations à l'université de Khartoum. En attendant, les étudiants manifestent pratiquement tous les jours pour réclamer la libération des jeunes protestataires.
Le Somaliland célèbre ses 25 ans d'indépendance. En dépit de sa stabilité, la république autoproclamée dans le nord de la Somalie n'est pas reconnue par la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conflit syrien continue de faire des victimes. Une frappe de l'armée a tué au moins 13 membres d'une même famille, dont 8 enfants. L'aviation de Bachar al-Assad a visé la ville de Rastan, dans le centre du pays. Celle-ci est contrôlée par des rebelles et assiégée par le régime, précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres. Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été gravement blessées, apprend-on de même source. Il y a seulement 3 semaines, des convois humanitaires avaient pu rallier Rastan à ses environs et l'aide avait pu être livrée à environ 120 000 personnes.
Toujours en Syrie, pour la première fois depuis 4 ans, la Croix-Rouge a pu acheminer de l'aide à un secteur de la Ghouta orientale à l'est de Damas. Cette zone est sous contrôle rebelle et est encerclée par les forces du régime depuis la mi-2013. Le convoi humanitaire dont fait mention l'AFP était composé de 29 camions chargés de nourriture, de médicaments et d'équipements scolaires destinés aux quelques 10 000 personnes demeurant à Arasta, a indiqué le porte-parole du CICR en Syrie. Le mois dernier, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, avait cité Arasta comme l'une des villes ayant besoin urgemment d'aide internationale.
En Turquie, 4 soldats ont été tués et 9 autres blessés aujourd'hui par l'explosion d'une bombe au passage de leur convoi dans le sud-est du pays à majorité kurde de la Turquie. L'armée attribue cette attaque au parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. 8 soldats avaient été tués et 8 autres blessés vendredi dans la même province de Hakkari au cours d'une opération militaire contre le PKK, selon l'état-major. La rébellion kurde en Turquie a fait 40 000 morts depuis 1984.
Vers la signature de l'accord de paix entre le gouvernement afghan et l'un des principaux groupes armés opposés au gouvernement, le Parti de l'Islam, dirigé par Gulbuddin Hekmatyar. Cet accord, qui en est encore à l'état de projet, selon un responsable du parti, pourrait ouvrir la voie à son retour en politique. Le Parti de l'Islam est la deuxième force de l'insurrection afghane après les talibans. M. Hekmatyar est accusé d'avoir tué des milliers de personnes pendant la guerre civile des années 90 et son nom figure encore sur les listes noires de Washington et de l'ONU, rappelle l'AFP.
Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui fait rarement machine arrière, a enterré la hache de guerre avec une présentatrice de télévision qu'il avait précédemment insultée durant sa campagne. Après l'avoir qualifiée de bimbo, évoqué ses règles et multiplié les attaques sexistes, le tonitruant milliardaire s'est excusé et a adouci le ton mardi soir dans un entretien avec cette présentatrice de la chaîne Fox News, Megyn Kelly.
Donald Trump a aussi concédé Morgan qu'il avait peut-être était trop loin. Il a dit « j'aurais pu faire les choses différemment à plusieurs occasions ». Mais il a expliqué que quand je suis blessé, je me défends durement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. John Lennon nous rejoint pour un coup d'œil sur l'économie.
32 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal entend mobiliser pour la campagne agricole 2016-2017. L'annonce a été faite hier par Sédou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps au Tchad, c'est le président de la République, Idriss Déby Itno, en personne, qui procédait également au lancement de la campagne agricole à Goz, Beida, où il a appelé les Tchadiens à retourner à la terre et à l'élevage, seul gage de sécurité alimentaire. Au Nigeria, le secteur aérien affecté par la pénurie de carburant. Ceci a conduit à l'annulation de nombreux vols nationaux et internationaux par plusieurs compagnies aériennes. Le manque de kérosène, dû à une baisse des importations, a atteint ces dernières semaines des niveaux alarmants, a affirmé Arik Air, la première compagnie nigériane. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Ceci grâce à l'entrée en vigueur imminente de l'accord sur les mesures du ressort de l'état du port, un accord international novateur parrainé par la FAO. Le quota des 30 membres signataires nécessaires pour l'entrée en vigueur a été atteint et dès le 5 juin prochain et pour la première fois au monde, un accord contraignant ciblant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, deviendra une loi internationale.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
En football, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération.
Après la qualification hier du tout-puissant Mazembe et l'élimination de l'Espérance de Tunis, nouvelle rencontre ce soir au programme. L'étoile du Sahel a été battue par le CF Mounana 1-0, mais c'est insuffisant pour les Gabonais qui s'étaient inclinés 2-0 en Tunisie. Même scénario entre la Sagrada Esperanza et les Young Africans de Tanzanie. Les Angolais l'emportent à domicile 1-0, mais sont éliminés grâce à la victoire 2-0 à l'aller des Tanzaniens. Élimination aussi des Mamelodi Sundowns, battus 2-0 au Ghana par le Medeama. À suivre, le FUS de Rabat accueille le stade malien de Bamako, Cap Cap de Marrakech contre Al Merrer du Soudan, et puis Mistral Makassa d'Égypte contre Al Ahly de Tripoli, 0-0 au match aller.
Et finale de la Ligue Europa ce soir.
Liverpool contre le FC Séville ce soir en Suisse à Bâle. Liverpool a remporté les trois finales de C3 qu'il a disputées. En cas de victoire, la formation anglaise remporterait donc son quatrième titre et égalerait le record détenu par le FC Séville, justement l'équipe espagnole qui a gagné les deux dernières éditions de la Coupe Europa.
Et on reparle de la corruption à la FIFA.
Julio Rocha, ancien président de la Fédération du Nicaragua et responsable du développement de la FIFA, a été extradé vers les États-Unis. Julio Rocha, 65 ans, avait été arrêté le 27 mai l'année dernière à Zurich avec 6 autres fonctionnaires de la FIFA qui ont tous été extradés depuis vers les États-Unis ou leur propre pays. Il était le dernier membre de ce groupe à être encore détenu en Suisse après plusieurs mois de bataille judiciaire afin d'être extradé vers le Nicaragua qui ne livre pas ses ressortissants.
Enfin, NBA, le championnat de basket nord-américain.
Hier, lors de la première manche de la finale de la conférence Est, Cleveland est resté invaincu en play-off en écrasant 115 à 84 Toronto. Kyrie Irving, 27 points et la star LeBron James, 24 points, ont mené les cavaliers dominateurs quasiment du début à la fin de la rencontre. Le deuxième match de cette série en 7 manches aura lieu jeudi, toujours dans l'Ohio.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour, première escale ce soir, la ville de Moroni, aux Comores.
C'est le 26 mai que sera investi le président élu des Comores, le colonel Azali Assoumani. Ayant accédé à la tête du pays une première fois en avril 1999 à la faveur d'un coup d'État, il avait remis le pouvoir en 2006 au président démocratiquement élu de l'époque, Ahmed Abdallah Sambi. Dans un entretien avec Timothée Donangmaï, le colonel Azali Assoumani parle tout d'abord des défis qui l'attendent.
Les Comoriens font face à d'énormes problèmes. D'abord, l'électricité. Vous savez, là où je suis, c'est la région présidentielle. Barib, vous n'avez pas avoir d'électricité. Et je vous fais un cadeau de villages un peu ruraux. Donc la priorité des priorités, c'est l'électricité. Si on ne peut pas travailler, les commerçants ont des problèmes, sans parler des opérateurs économiques. Donc ça, c'est la priorité des priorités, c'est avoir de l'énergie. Mais d'abord, une énergie pour pouvoir mettre les gens au travail, en attendant de travailler sur de l'énergie renouvelable d'une façon stratégique. Et de ce côté-là, nous avons des études déjà prêtes et nous avons aussi des experts, même des pays voisins, qui ont de l'expérience à nous donner, que ce soit l'île Maurice ou la Réunion. Mais l'électricité, c'est vraiment l'élément moteur de notre programme qui s'impose, surtout que dans 10 jours, on sera au mois de Ramadan, et c'est un mois sacré où le peuple comorien va être en paix, en sécurité, en sanité pour faire toutes ses prières.
D'où viendront les ressources que vous comptez mobiliser pour résoudre tous ces problèmes?
La question mérite d'être posée parce que je n'ai pas encore pris les rênes du pouvoir, je ne sais pas dans quel état le pays se trouve, mais ayant gouverné ce pays pendant ce temps où, par des fonds propres, on a tout résolu les problèmes de ce pays, on payait les salaires, on a fait des investissements propres. Bon, je présume que quand même les Comoriens ne sont pas jusqu'à ce point. Je pense que de ce côté-là, des éléments d'information que nous avons, sur le plan local, on peut d'abord résoudre le problème d'une façon tactique, en attendant effectuer des accompagnements. Mais jusqu'alors, je pense qu'il y a beaucoup de pays ou d'organisations qui sont capables ou qui sont prêts à nous accompagner dans ce domaine-là.
La corruption continue d'être un souci dans votre pays. Quelle idée avez-vous sur les moyens de la combattre?
Écoutez, la corruption ici, maintenant, ça dépasse les limites. C'est quand même malheureux de le dire. Puisqu'on ne parle pas de corruption ici, c'est un détournement au vu aussi de tout le monde. Les gens font du n'importe quoi. Donc effectivement, c'est l'un des soucis qui sont affrontés à nous. Et puis aussi, le pays est jumelé. Je crois que tout le monde regarde ça. Les gens qui veulent investir dans ce pays, ils ont besoin d'un pays où il n'y a pas la corruption. Et la corruption, ça passe par une justice équitable. Donc de ce côté-là, on a fait une étude de mesure de restaurer la dignité du pays, l'autorité du pays, la justice, hein, qui est une justice, et puis qu'effectivement, les gens aient des obligations de résultat et des comptes rendus, des comptes à rendre par rapport aux obligations qui leur ont été données.
Au plan régional, des centaines de Comoriens ont été chassés de leur domicile à Mayotte et sont aujourd'hui dans une situation précaire. Qu'allez-vous faire à leur sujet?
C'est vrai, les circonstances font que dans 10 jours, je vais prendre les rênes du pouvoir, donc on a tendance à me poser la question. Mais je pense que la question doit être posée instantanément au gouvernement comorien qui est là, avec un ministre des étrangères, avec un président au gouvernement français. Moi, ce que je peux dire, c'est que je déplore quand même cet état de fait, puisque ce problème entre la France et les Comores, je ne pense pas que ce soit un problème insoluble. La France est un grand pays, respectable et respecté, et je pense qu'on a les moyens de s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Parce que ça fait 40 ans que ça perdure. Donc tant qu'on n'a pas une solution par rapport à ce problème-là, effectivement, tu peux y arriver. Ça, on le vit en dents de scie. À chaque cycle, je ne sais pas, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il y a effectivement ce phénomène par rapport à des Comoriens, effectivement, qui vont s'installer à Mayotte, qui est leur pays de par le droit international, et que les Maorais et les Français n'entendent pas d'une bonne oreille. Et ça, effectivement, à chaque fois, ça se fait.
Le président élu des Comores, le colonel Azali Assoumani, joint à Moroni.
La communauté internationale a convenu à Vienne d'armer la Libye contre la menace djihadiste. Prête à lever l'embargo sur les ventes d'armes à destination de la Libye, elle n'a en revanche pas l'intention d'intervenir militairement pour soutenir le gouvernement d'Union nationale. De son côté, Tripoli sollicite des avions de combat pour chasser Daesh et d'autres groupes terroristes. Alors, toutes ces mesures vont-elles permettre à la Libye de retrouver la stabilité? Éric Manirakiza a posé la question au directeur de communication en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ahmed Benchemsi.
D'un point de vue de droits de l'homme, qui est notre préoccupation principale à Human Rights Watch, c'est que nous enjoignons avec insistance toutes les parties qui ont pris cette décision, c'est-à-dire les puissances occidentales, à faire en sorte de vérifier vers qui vont ces armes. Parce que cette erreur a été commise dans le passé, des armes ont été données à des rebelles pour lutter contre le régime Kadhafi, ce qui pouvait sembler comme un but légitime à certains, vu toutes les exactions qui avaient lieu. Et puis au final, une bonne partie de ces armes sont retrouvées entre les mains de groupes qui ont commis des exactions avec et qui ont commis des violations des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous demandons à toutes les nations qui vont donner ces armes de faire très attention à qui elles les donnent et de faire attention à ce que ces armes, au bout du compte, ne se retrouvent pas entre les mains de groupes armés qui vont les utiliser pour commettre des violations des droits de l'homme.
Ils ont été très précis, les armes vont être données au gouvernement de l'Union nationale et les factions seront toujours frappées par l'embargo sur les armes.
Il faut vérifier entre les mains de qui les armes arriveront au bout du compte.
Vous avez sorti un rapport sur Daesh en Libye, c'est quoi exactement?
Et nous avons pu interviewer des habitants de Sirte, des personnes qui avaient fui Sirte, des membres des familles de personnes qui avaient été exécutées par Daesh, et l'image qu'ils nous ont dressée de la vie sous Daesh à Sirte est absolument effrayante. D'abord, il y a 49 personnes au moins, je dis bien au moins, qui ont été exécutées par Daesh, et nous parlons d'exécutions absolument atroces, hein, des gens dont la tête a été coupée, d'autres personnes qui ont été vêtues de cet habit orange qui est maintenant caractéristique des détenus de Guantanamo et qui ont été proprement crucifiées sur des places publiques, donc des scènes d'horreur comme ça. Évidemment, ces exécutions, elles résultaient de procédures qu'on n'ose même pas appeler judiciaires, qui étaient absolument expéditives et qui ne garantissaient absolument pas le droit à un procès équitable. Il y a des patrouilles de Daesh qui patrouillent dans les rues et qui peuvent punir des gens ou les condamner pour des motifs incroyablement aberrants comme la sorcellerie, l'espionnage ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont été tués pour sorcellerie, pour espionnage, d'autres qui ont été tués pour blasphème. Des patrouilles, encore une fois, qui vérifient si les femmes portent bien la baïa noire totalement opaque. Si un homme fume, il peut être puni pour ça. Des patrouilles de Daesh qui rentrent dans des maisons au milieu de la nuit et qui kidnappent des hommes dont le destin devient inconnu. Enfin, c'est une vie absolument de cauchemar.
Est-ce possible de chasser Daesh et d'autres groupes terroristes?
C'est une question qu'il faudrait peut-être adresser à des acteurs militaires sur le terrain.
Ahmed Benchemsi, joint ici aux États-Unis.
Le Burundi et le Rwanda à couteau tiré. Dernier épisode en date, le Rwanda a expulsé plus de 1500 Burundais installés pour la plupart depuis des années dans le pays, même si Kigali a précisé que ces expulsions ne visaient pas particulièrement des Burundais. Cela envenime les relations diplomatiques déjà exécrables entre les deux pays. Bujumbura accusant Kigali de chercher à renverser le président Pierre Nkurunziza. Alors, à qui profitent ces tensions? Quel terrain d'entente possible? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le sud-ouest de l'Afrique subit une grave épidémie de fièvre jaune qui a émergé à Luanda, la capitale de l'Angola. La maladie a déjà fait près de 300 morts et probablement infecté plus de 2000 autres personnes. En plus, le virus se propage dans d'autres pays de la sous-région. Le comité d'urgence de l'OMS a annoncé la tenue demain d'une réunion de son comité d'urgence sur la fièvre jaune. Tariq Jacerevich, porte-parole de l'OMS au micro de Nani Talani.
L'épidémie qui a commencé en Angola au mois de décembre l'année dernière, dans ce pays, a déjà fait plus de 2000 personnes infectées et on sait qu'il y a presque 300 personnes qui sont mortes de cette infection. À part ça, en République démocratique du Congo, on parle d'une cinquantaine de cas confirmés et aussi une épidémie qui est pas lié à celle d'Angola qui s'est déclarée en Ouganda. Ce qui est plus inquiétant que les chiffres dans cette épidémie, c'est qu'en Angola et en République démocratique du Congo, l'épidémie s'est étendue vers les villes, vers les centres urbains, où c'est beaucoup plus difficile de vacciner tout le monde. Il y a une population de moustiques qui est très importante. Donc, c'est pour cela que l'OMS préoccupé par cette situation parce qu'il est plus difficile de contenir l'épidémie et la transmission du virus dans les zones urbaines.
Est-ce que vous pensez que les vaccins sont disponibles pour toutes les personnes qui en auront besoin et aussi accessibles par rapport au prix?
Pour le moment, nous avons réussi à envoyer en Angola plus de 11 000 vaccins. On a déjà vacciné presque 90% de la population de la capitale de Luanda. La vaccination se continue dans d'autres provinces. On envoie aussi 2 millions de doses vers la République démocratique du Congo où la transmission locale a été aussi confirmée. Donc voilà, pour le moment, on essaye de réorienter certains vaccins qui sont normalement destinés vers les pays qui ont la fièvre jaune. Mais on travaille aussi avec les producteurs pour voir comment on peut arriver à augmenter la production des vaccins pour arriver à apporter donc les vaccins là où ils sont demandé le plus, et c'est les pays où il y a actuellement donc la circulation des virus.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence le 19 mai sur la fièvre jaune en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion?
Le comité d'urgence va se réunir pour revoir déjà la situation épidémiologique concernant cette épidémie de fièvre jaune. Il va aussi revoir quelle a été la réponse jusque-là. Il va aussi voir quelles sont les recommandations que l'OMS devrait faire pour l'ensemble des pays pour voir quelles sont les mesures à prendre pour essayer de contenir l'épidémie.
Tariq Jacerevitch, porte-parole de l'OMS au micro de Nani Talani.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
On est au Togo justement pour parler de ce concours APS Togo lancé le 1er septembre 2015. Il a révélé ses lauréats au terme d'une soirée de récompense ce 17 mai à Lomé. Notre correspondante Kaye Lawson était sur place.
Le Togo a récompensé en marge de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information les lauréats du concours APS Togo. Sina Lawson est la ministre en charge de l'économie numérique.
Il y a 8 mois, nous avons lancé le concours APS Togo et la seule instruction que nous avons donnée, c'est que nous voulions que ce soit une application qui soit innovante et utile. La première étape, c'était d'identifier ces projets innovants et c'est ce que nous avons fait. Et aussi de les primer, c'est-à-dire de reconnaître devant la population, de reconnaître devant leurs pairs la qualité du travail qu'ils ont effectué.
Le concours s'est déroulé dans 3 catégories. La première dans laquelle ont compétit les grandes écoles a été remportée par un groupe de 3 étudiants de l'Institut africain d'informatique IAI Togo. Joséphine Akpaku est membre du groupe lauréat.
IDIARI permet de changer automatiquement les profils, c'est-à-dire si par exemple vous êtes en réunion, vous n'aimez pas être dérangé à une certaine heure, donc vous paramétrez juste l'heure à laquelle vous n'aimeriez pas être dérangé et donc l'application se charge de changer le profil selon l'importance de l'événement que vous avez à cette heure-là. Il y a aussi une partie géolocalisation dans l'application. Par exemple, lorsque vous avez une réunion à tel point, l'application vous indique à quelle heure vous devez partir pour ne pas être en retard à la réunion.
Lionel Akwe a conçu une application dénommée AdotCall. Il s'agit d'un annuaire pour des numéros mobiles avec comme objectif dynamiser le secteur informel au Togo.
80% de l'économie togolaise est informelle. Ce sont des taximans, des mécaniciens, des réparateurs qui ne peuvent pas s'offrir le téléphone fixe. Tout le monde écrive sur la presse publique ce numéro pour qu'il soit contacté. Écrire ce numéro dans la rue pour une centaine de personnes ou le mettre sur Internet et être visible par des millions de personnes. Ça, c'est la solution qu'apporte AdotCall.
Tout comme AdotCall, l'application AgroTogo, qui a reçu le premier prix dans la catégorie des développeurs indépendants, est dédiée à un secteur important de l'économie togolaise.
Mon application permet d'interconnecter les consommateurs des producteurs. Donc, mon application va aider les paysans togolais à pouvoir écouler plus rapidement leurs produits.
Parmi les 16 lauréats récompensés lors de cette soirée de remise, Joséphine Akpaku est la seule femme.
Les filles ne remarquent pas que c'est un domaine qui est de rêve. Donc, c'est l'occasion aussi de les exhorter à vraiment faire des pas vers cette filière-là.
Kailosol Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Georges Léonard Sagno. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.